Moi-même, je ne le connaissais pas très bien. Faut pas trop improviser dans la vie. Bien, bonjour à chacun, bonjour à tous. Je pense que ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si c'est un effet de l'âge qui vient, mais il vient. Mais l'accumulation des mauvaises nouvelles du monde produit chez moi une sorte d'indigestion. Une sorte de trop c'est trop, et parfois, pourquoi ne pas le dire, de découragement. En effet, quand l'actualité nous offre un peu de répit, c'est de courte durée. Et on replonge assez rapidement dans la litanie des guerres, des massacres, des noyades de migrants, des découvertes des pollutions de l'environnement, des meurtres entre bandes de rivales dans des prisons, des infanticides ou encore des féminicides, des attentats, des tueries de masse aux États-Unis, ou encore la mort d'un pompier tentant un incendie criminel. Et j'avais encore oublié ce kamikaze qui s'est fait exploser et a tué 63 personnes dans un mariage à Kaboul il y a quelques jours. Est-ce que vous en avez assez ou est-ce que je continue cette triste liste ? Car tout ça, c'est juste sur les deux derniers mois qui viennent de se passer. Deux mois qui sont théoriquement des mois de vacances d'été, insouciants. Et si je remontais, non pas à deux mois, mais à deux ans, mon énumération durerait le temps total de notre culte aujourd'hui. Et si je remontais à 20 ans, je revivrais ne serait-ce que sur ce tiers de ma vie, voilà comme ça, tout le monde sait mon âge, de multiples souvenirs traumatisants, des sentiments de dégoût et une immense impression de gâchis. Je lis dans Habacuc, si ça veut bien passer. Voilà. Jusqu'à quand, ô Éternel, vais-je crier à toi ? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements corrompus. Voilà ce que est en train de nous dire Habacuc. Comme je vous le disais en introduction, il y en a marre de ce que je vois. Habacuc, c'est nous. Il résonne dans un système théoréférencé, c'est-à-dire centré sur Dieu, sur un Dieu unique, en plus. Et cela a une signification profonde. Pour lui et pour nous, le monde est un monde créé. Il a une finalité, il a un sens. Il a une histoire qui peut apparaître chaotique, certes. Mais il a une histoire qui se déroule avec un début et une fin. Et avec Habacuc, nous croyons cela lorsque nous nous définissons comme chrétiens. Et nous y ajoutons même que Dieu créateur est bon envers nous. Et nous y ajoutons même, avec Habacuc, que ce Dieu est juste. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ? La loi est sans vie, le droit est sans force. Mon Dieu, tu ne pilotes décidément rien. Mais que fais-tu ? Tu n'écoutes pas. Question pour nous. Est-ce que nous sommes les seuls, avec Habacuc, à réagir face à l'injustice ? Est-ce que nous sommes les seuls, parce que nous serions chrétiens, à discerner ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas ? Sommes-nous les seuls à être choqués, traumatisés par des événements divers et variés qui nous assaillent à longueur d'infos ? Je ne crois pas. Tout homme portant lui, justement parce qu'il est créé en image de Dieu, la trace profonde de ce qui est fondamentalement le souvenir d'une création harmonieuse, d'une paix et d'une sécurité profonde. Tout homme a la notion, même vague, de ce qui devrait être et qui n'est pas. Et cela est profondément enfoui en lui, du moins je le crois, dans la plupart de nos contemporains. Mais le vécu réel est tellement contraire à cette aspiration profonde. Alors il y a plusieurs manières de réagir par rapport à cette frustration. Certains se tournent avec un doigt accusateur d'emblée vers un Dieu qu'ils ignorent d'habitude superbement, en lui demandant pourquoi, voire en lui demandant de se justifier. On cherche le responsable. Pourquoi Dieu permet-il l'injustice et la violence? Ce n'est pas normal. Pour d'autres, qui ont vécu, au contraire, sans même l'idée, la notion d'un Dieu créateur et souverain, les choses sont compliquées. Par rapport à cette situation, il faut inventer des règles qui permettent à l'humanité de tenir et de fonctionner quand même, selon une certaine logique. Il faut par exemple inventer du droit, un droit civil, un droit fiscal, un droit patrimonial. Il faut définir tant bien que mal les droits de l'homme, des instances pour les faire respecter, des tribunaux. Il faut adopter des principes généraux du droit. Et ainsi, on pense, sans Dieu, contenir la violence naturelle des hommes, en lui fixant une limite. Car c'est cela le sens du droit, c'est empêcher que le plus fort opprime le plus faible. Et est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à satisfaire à la soif de justice, de paix et de sécurité des hommes? Avez-vous vu, par exemple, souvent, des parties adverses dans un procès se déclarer à la sortie, toutes deux, satisfaites du jugement rendu? Chacun a sa propre conception de ce qui est juste ou de ce qui est injuste. Eh bien non, le droit ne suffit pas. La construction juridique ne suffit pas car elle-même peut être détournée, et c'est ce que dit Habacuc dans sa première question. La loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Et Habacuc lui-même est porteur d'un troisième type de réaction. Certes, il est un homme ordinaire avec ses questions et ses révoltes comme chacun d'entre nous. Certes, il interpelle Dieu, il lui fait part de son incompréhension, de son impatience et de sa colère. Et au passage, je note que la Bible ne masque pas ce que peuvent être les réactions humaines. Elle ne fait pas l'impasse sur nos ressentis. Et tout cela est entendable. Oui, notre souffrance et notre frustration peuvent s'exprimer sans être réprimées. Mais si je dis qu'Habacuc est porteur d'un troisième type de réaction, c'est qu'à la différence de ceux qui font un procès en inaction à Dieu, qui ne contactent qu'en cas de problème, Habacuc, lui, a une haute attente vis-à-vis de Dieu. Pas une attente de circonstances, mais une attente de longue haleine, qui se nourrit de sa connaissance des Écritures. Il est, lui, véritablement à l'écoute de Dieu, et la suite va nous le montrer. Car la suite est effrayante. À l'interpellation de départ d'Habacuc, Dieu n'apporte pas la réponse attendue. Mais alors, pas du tout. Cela va aller encore plus mal que ce qu'imagine Habacuc. Voilà ce que Dieu met dans la bouche d'Habacuc de sa part. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Judas, après l'oppression assyrienne, qui a déjà emporté Israël un siècle avant. Après la domination égyptienne, qui a si longtemps empoisonné la vie de ce royaume de Juda, ce sont maintenant les Babyloniens, on dit aussi les Chaldéens, qui vont déferler. Et ce qui est annoncé, c'est un désastre. C'est la destruction de Jérusalem, c'est la déportation des prisonniers. Et l'on sait que deux sièges successifs vont détruire Jérusalem. Ce qui va se passer, c'est le fruit d'un long processus. Et dans ce processus, on trouve Habacuc. Un long processus qui, depuis longtemps, amène Juda à sa perte. Et Habacuc, à ce moment-là, est un observateur du présent, attentif. Mais il a les yeux et les limites d'un homme. Il est révolté par l'injustice, mais il ne sait pas que l'histoire est en marche, inexorablement. Il n'a pas la vue d'ensemble, celle que Dieu possède et que jamais nous n'aurons. Il n'a pas la vue en perspective qui lui permettrait de comprendre que Dieu ne va pas juste redresser la situation, corriger la copie, tout remettre en ordre, faire le ménage, comme Habacuc, lui, le souhaiterait. Un peu de ménage de ta part, Seigneur, et hop, on règle l'affaire. Non. Il a cette révélation. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant. Il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Technique de bataille. Il y a des murailles. Je monte des rampes de matériaux et de terre et je passe par-dessus les murailles. Voilà pourquoi il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche. Et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. La référence de ces Babyloniens, c'est leur propre force. Et il nous faut, malgré tout, croire encore avec Habacuc. Là encore, des textes difficiles, la suite de l'affaire. Voilà ce que Habacuc ressent à l'annonce terrible du désastre. On ne va pas faire de reproches à notre petit prophète aujourd'hui. On va plutôt avoir tendance à l'admirer pour une raison simple. C'est qu'il ne doute même pas dans ces circonstances de la nature de Dieu. Lisons, « N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Mais voilà comme termine Habacuc. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. En d'autres termes, ma voix me permet d'exprimer des reproches, mais ma voix aussi va me permettre de faire passer la réponse de Dieu à ces reproches qui sont les miens, puisque je suis porte-parole en tant que prophète. Voilà ce que nous dit Habacuc. Tu es bon, Seigneur, mais qu'est-ce que je souffre de ce que tu m'annonces? Tu es tout puissant, donc tu ne peux pas laisser faire. C'est pas toi, Seigneur, tel que je te connais. Je ne comprends pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder la misère. Personnellement, je n'arrive pas toujours à concilier ce qui me choque dans la marche du monde et ce que je sais profondément dans la nature de Dieu. La question « Pourquoi Dieu laisse-t-il faire ?» est une question qui nous rapproche régulièrement d'Habacuc. Ce royaume de Juda, C'est la dernière preuve concrète du peuple que Dieu s'est choisi et lui aussi va disparaître. Comment peut-il laisser triompher des Babyloniens qui adorent des idoles, qui n'aiment que la guerre et la conquête? Et dans cette situation, ce qui est encore plus perturbant, c'est que Dieu ne laisse pas simplement faire, il annonce le pire. Nous avons l'intime conviction chevillée au corps que soudainement Dieu n'est pas devenu injuste. Comme Habacuc, nous ne doutons pas de sa justice, mais nous ne comprenons pas toujours les circonstances dans lesquelles nous vivons. Ce que je note chez Habacuc, c'est qu'il a de vraies questions. Il a également de vraies attentes. Il est objectivement choqué par la situation qui s'annonce, mais il est fondamentalement en attente et en veille. Et c'est ce que veut dire ce verset. Je veux être, malgré tout ce que j'ai entendu, à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Les questions et les interrogations d'Habacuc ne sont pas cachées. Elles ne fermentent pas à l'intérieur en produisant un effet délétère. Il a dit ce qu'il pensait et ce qu'il ressentait. C'est sorti. Et pour autant, il passe à l'étape suivante. Je veux être à mon poste et veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ça, ce ne sont pas pour lui que des mots. Alors, attendre encore. Quelle patience. C'est justement parce que Habacuc est en attente et qu'il est donc capable d'entendre ce que Dieu a à lui dire qu'il va être dépositaire d'une deuxième révélation. Habacuc vient d'avoir une vision à 20 ans. C'est l'invasion des Babyloniens. Eh bien, Dieu va lui en donner une deuxième, et cette fois-ci à 60 ans. Et la suite du chapitre est éclairante. L'Éternel m'a répondu et m'a dit, « Mets par écrit ta vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé, précis. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Il est plein d'orgueil. Et le « il » ici, c'est le babylonien. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. La suite du chapitre indique que ces nouveaux agresseurs, que sont les Babyloniens, seront à leur tour, une quarantaine d'années après, détruits par les Perses. Leur règne sera de courte durée, jusqu'à la disparition même de leurs traces. D'ailleurs, où est Babylone aujourd'hui? C'est un ensemble de ruines qui se visitent en Irak. Mais une montée puissante et fulgurante a débouché sur une chute tout aussi rapide en quelques dizaines d'années. Et voilà ce que va devenir l'agresseur de Juda. Et ainsi va continuer l'histoire. Babylone sera donc vaincue par les Perses, puis les Perses seront à leur tour vaincus par les Grecs, etc., etc., etc. Mais ce qui est à retenir ici, c'est que Dieu demande encore d'attendre. Mais d'attendre en mettant sa confiance en lui. Des événements vont survenir, troublants, totalement déstabilisants. Mais ce qui fait vivre le juste, c'est la foi, c'est la confiance. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Alors en quoi tout cela nous concerne ce matin, même si je pense que déjà, dans l'attitude d'Habacuc, des choses ont dû résonner chez nous? Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des porte-paroles visionnaires choisis par Dieu comme l'étaient même ce qu'on appelle les petits prophètes. En revanche, comme Habacuc, nous sommes peut-être des découragés et peut-être aussi des décourageables. Voir notre monde proche ou éloigné répéter à longueur de siècle les mêmes erreurs. Voir la violence se mettre à bas sans arrêt. L'espoir de progrès des sociétés dites civilisées. Voir par exemple, c'est d'actualité, notre planète épuiser ses ressources naturelles de plus en plus tôt chaque année et continuer sa course insensée. il y a de quoi être découragé. Et c'est normal. Nos aspirations profondes à la paix, à la sécurité, sous toutes ses formes, sont régulièrement déçues. Et il faut faire face souvent à nos déceptions, y compris dans nos vies de famille, y compris dans notre vie au travail, y compris dans nos relations, dans notre santé, dans notre vie de communauté même, parfois. Et le découragement fait juste partie de notre vie, comme il fait partie de la vie de personnes bien plus illustres que nous. Trois exemples brefs. Regardez Moïse, qui s'échine à faire sortir ce peuple hors d'Égypte, hors de sa condition d'esclave. Et ce peuple qui passe son temps à se plaindre, puis à se fabriquer des idoles. Et on sait que Moïse, à un moment donné, est à deux doigts de craquer. Regardez Élie, en danger de mort, poursuivi par les soldats de Jézabel, qui fait une grosse déprime et qui demande même à un moment donné à mourir. Regardez Paul, découragé par l'attitude des chrétiens de Corinthe, qui sont décidément incorrigibles et incapables de modifier leur comportement. Oui, Paul, à certains moments, a dû être très découragé de voir ce qu'il voyait. Donc tout le monde peut passer par des phases de découragement. Découragement, ça fait partie de la vie, et pourquoi y échapperions-nous ? Découragement peut aussi nous pousser à adhérer au parti de ce qu'on appelle les aquabonistes. À quoi bon ? À quoi bon ? Et est-ce que ramer dans un environnement à contre-courant, où tant de gens s'en tirent, y compris de façon malhonnête, en profitant de l'injustice, en abusant de leur pouvoir, est-ce que ça vaut le coup ? Les annonces que reçoit Habacuc n'ont pas véritablement de quoi lui redonner le moral, c'est vrai, et de quoi l'amener à continuer à croire que les situations dont il se désole seront redressées. Mais malgré tout, ce que va comprendre Habacuc, c'est que Dieu reste le maître de l'histoire. Il n'a pu qu'entrevoir les choses par un petit coin du voile levé, 20 ans avant, puis 60 ans avant. Il voit que des événements vont se produire. Mais surtout, ce qu'il a compris, c'est que le Dieu en qui il a placé ses attentes est souverain et maître des événements. Et Habacuc nous a fait, par son récit en quelque sorte, et c'est pour ça que ces trois petits chapitres sont utiles, même si on parle des petits prophètes, il nous a fait monter sur ses épaules par son récit pour nous faire voir plus loin que ce qui est en train de se passer, même aujourd'hui. À vue humaine, les invasions qui s'annoncent pour ce royaume de Juda sont des catastrophes. Mais elles vont finalement engendrer autre chose. La déportation et la dispersion de ce peuple qui va essaimer jusqu'en Mésopotamie, en Babylone, et autour de Babylone, eh bien, ça va déboucher sur un retour au pays pour reconstruire le temple à Jérusalem après 70 ans de captivité et d'exil. En clair, dans un autre état d'esprit, et pour ce peuple en ayant retrouvé le sens de son histoire. À l'étranger, certes, mais en ayant retrouvé le sens de son histoire, jusqu'à reconstruire le temple. Oui, l'histoire a un sens et elle a une direction. Notre présent a parfois de quoi nous effrayer, il faut le reconnaître, ou de quoi nous décevoir. Mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la confiance qu'il place dans son Créateur. Et on pourrait même inverser la proposition, et c'est ce que fait un commentateur dans une concordance. Au lieu de dire « le juste vivra par la foi », formule à laquelle nous sommes très habitués, on pourrait dire « ce qui fait vivre le juste, ce qui fait vivre le juste, c'est de faire confiance en Dieu ». Et on pourrait le dire ainsi. C'est la foi qui le fait vivre. Conclusion. Dans une troisième et dernière partie, Habacuc, dans une sorte de poème chanté, va exalter la puissance supérieure de Dieu. Il sait que l'histoire est en marche, mais pas de la façon dont il avait imaginé. Mais il comprend cette fois la perspective. Quel privilège de comprendre ce qui va réellement se passer. Alors je veux juste, pour conclure, relever trois petites choses. La première, j'avoue que j'aime beaucoup la façon dont Habacuc réagit à ces nouvelles annonces. Dans le verset 2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, terrorisé. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Voyez, l'acceptation, mais en même temps, la petite requête. Souviens-toi quand même de ta compassion. Malgré ce que tu annonces de terrible, moi, Habacuc, dans le fond, je sais que tu es plein de compassion. Vous sentez la confiance d'Habacuc dans son Dieu ? Seigneur, quand même, reste fidèle à ce que tu es. Au fond, je sais que tu es un Dieu qui souffre avec ton peuple. Et souffrir avec, c'est ça que ça veut dire, compassion. Deuxième remarque. Effectivement, moi, Habacuc, j'ai la trouille. Versets 16 et 17. J'ai entendu, je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os. Mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça va être terrible, je le sais. Je ne me mens pas, le plus dur est devant nous. Et puis, même si, souviens-toi de ta compassion, mais ça va être quand même sacrément dur. Troisième et dernière remarque, l'expression de la confiance. Versets 18 et 19. Voyez comment Habacuc termine ce terrible texte des trois chapitres. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Tout de suite après, l'expression finale de la confiance. Alors, puissions-nous, comme Habacuc, être capables de faire face à l'inimaginable et malgré tout garder les yeux fixés sur le Dieu qui est au fond, en définitive, le Dieu de la compassion. Amen.